Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. That plane's dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quatrième numéro de votre émission de cinéma sur Transistor, d'étoiles plein les yeux. Les yeux aujourd'hui, ce sont ceux de Hugo et de Jérémy, qui accompagnent les miens. Quant à la toile, on y projetait pour ce numéro Le Fils de Saul, premier film du Hongrois Laszlo Nemes. Saul est un Sonderkommando, l'un de ces détenus spéciaux des camps nazis chargés de l'extermination de leurs semblables. C'est en nettoyant une chambre à gaz qu'il découvre le corps d'un garçon et se met soudain en tête de lui donner une véritable sépulture, comme un dernier élan de résistance à la mort dans l'horreur qui l'entoure. Microscopique grain de sable perdu dans cette terrible mécanique, il va diriger chacun de ses actes vers ce seul but, sourd au massacre tout autour de lui, sourd à la révolte qui se prépare parmi les détenus, sourd enfin à la peur et à la douleur, dans un lieu où tout l'agresse. Où tout agresse le spectateur aussi, tant celui-ci se trouve immergé dans le personnage de Saul par la caméra de Laszlo Nemes. On suit ainsi, minute après minute, les pérégrinations du personnage à travers le camp, ses tentatives de récupérer le corps et sa quête éperdue d'un rabbin, quitte à sacrifier le peu de vie qui lui reste, quitte à réduire à néant les espoirs de révolte des autres Sonderkommando autour de lui. Je n'en raconte pas plus, on ne peut pas en raconter beaucoup plus d'ailleurs, et fais place à Hugo et Jérémy. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Fils de Saul ?
C'était un film absolument effroyable au sens premier, c'est-à-dire on en sort complètement glacé, parce que... On peut pas rester indifférent à ce qui se déroule sous nos yeux. C'est vraiment une expérience cinématographique intense et tout sauf agréable en fait. Mais j'ai apprécié le film d'un point de vue esthétique, même si tout est fait pour ne pas que l'esthétique prenne le dessus justement. C'est ça qui est passionnant.
Oui, c'est vraiment quand on sort de la salle, on sait vraiment plus quoi dire ou plus quoi penser. Ça nous met vraiment face à ce qui s'est passé à cette époque, à ce moment. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas être, on peut plus se sentir indifférent, alors que tout dans le film est indifférent. Les personnages semblent tous presque indifférents à ce qui se passe autour d'eux, et on a une sorte de banalité du mal vraiment partout.
Oui, alors c'est vrai que c'est exactement ça, et c'est exactement ce que tu dis, Jérémy, aussi. C'est que pour moi, c'est indéniablement vraiment un grand film. Mais c'est impossible de sortir d'une telle expérience en se disant j'ai aimé. C'est ce que disait Marie voilà, pour The Lobster autre jour. On ne peut pas dire j'ai aimé. Mais là, vraiment, a fortiori, pour ce film-là, c'est encore quelque chose de bien plus extrême. C'est-à-dire que tous les procédés sont mis en œuvre pour nous mettre dans la peau de ce personnage et surtout pour mettre ce vécu dans notre tête. Et peut-être que. Alors, c'est assez inhabituel peut-être de commencer par ça, mais. Je voudrais m'intéresser à la forme dans ce film parce que c'est vraiment un film très très formel et toute l'histoire est vraiment portée par un travail formel qui est assez époustouflant. Alors il y a déjà cette caméra qui est toujours complètement en orbite autour du personnage, qui ne lâche jamais. La première image du film, le personnage entre dans le champ. La dernière image du film, il sort du champ. L'avant-dernière image, plus exactement. Oui. Et puis... il ne quitte jamais la caméra, à part dans un champ contre champ, dans la dernière scène avec ce garçon, mais on va peut-être pas tout raconter tout de suite. Et ça fait qu'on ne peut pas voir autre chose que ce qu'il voit lui,
et on est dans sa peau. On en voit moins que lui.
Est-ce qu'on en voit vraiment moins que lui ?
J'ai l'impression, la plupart du temps, on est derrière lui, enfin, il masque une partie du champ. Donc en termes d'information, de prise de vue, je pense qu'on a moins de profondeur de regard que lui. Mais on est vraiment, pour le reste, à sa place.
Après, sur le premier plan, en fait, tout est... quand on a un des premiers plans, un des seuls plans, on voit de la profondeur. Mais en fait, elle est floutée.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le paradoxe.
C'est le cas dans vraiment quasiment tous les plans du film. C'est-à-dire qu'il fait exprès de mettre une focale très très longue et du coup, on ne voit que ce qui se passe très près de la caméra. Tout le reste est flou. Et c'est là, je pense, le tour de force du film. C'est-à-dire que l'horreur n'est pas montrée, mais elle est proposée à l'imagination du spectateur. Et c'est par ce flou et par une bande-son extrêmement travaillée et véritablement abominable...
La bande-son, c'est le pire, oui.
Que, que tout est... On se contente pas de voir des images, mais ces images sont placées dans notre tête et dans notre imagination. Et c'est là où l'expérience peut devenir vraiment douloureuse, cette expérience du film.
Oui, oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. C'est une... Les images sont myopes, finalement, à cause, comme tu dis, de cette focale. Et oui, alors, la bande-son, vraiment, c'est le plus abominable des abominables, parce qu'il y a un travail sur le... de mixage, un volume très fort, des contrastes de volume très fort, qui font sursauter en permanence, et aussi la spatialisation. Alors, je sais pas si vous avez eu la même impression, mais à plusieurs moments, dans la salle, on a sursauté en pensant vraiment que c'était derrière nous, qu'il y avait
des balles derrière.
Voilà,
des...
c'est ça qui fusait de tous les côtés. Et en fait, la vraie violence, on voit rien, mais la violence, on l'entend. Donc voilà, ça fait travailler l'imaginaire et ça fonctionne très bien pour le coup.
Il y a aussi tous ces plans séquences, c'est-à-dire que qui mettent un rythme assez démentiel. La caméra ne s'arrête pas. Il y a assez peu de montage et les plans durent très très longtemps. La caméra bouge.
Oui, c'est vrai, oui.
Et du coup, on est vraiment au temps zéro. Enfin, il y a ce rythme qui est cadencé par la marche des personnages aussi.
Bon, on a vraiment une impression de réalité toujours, mais qui est pas de documentaire, mais qui est
une vraie réalité dans la dimension temporelle.
Oui, voilà, c'est ça, dans l'aspect temporel, la temporalité de la narration, c'est vraiment, on vit tout ça minute par minute, et il y a une continuité de ce qui est montré, et donc on peut pas y échapper. Ça participe aussi de cet enfermement visuel, mental, que montre le film, qu'il met en œuvre.
Ça, et évidemment... le choix du cadre, c'est-à-dire que volontairement on prend un cadre très très serré,
ouais, c'est du 4
tiers. Le personnage est enfermé dans ce cadre et le spectateur aussi.
Ouais, c'est un dispositif formel complètement, faut le dire, carcéral, concentrationnaire. De ce point de vue-là, ça marche très bien. Pour l'œil du spectateur, vraiment, on se sent enfermé, on se sent pris au piège avec ce personnage de Saul justement.
On a toujours l'impression d'être toujours enfermé, de jamais voir le ciel.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, je crois qu'il n'y a aucun moment où on voit vraiment le ciel, d'ailleurs.
Là, je crois que des fois, il est là, mais la lumière et la poussière et le cadre font qu'on ne voit pas jusqu'à la fin.
La fumée,
non.
Et puis la pellicule, c'est-à-dire que Ella Sonnemes en est très très fière et le répète inlassablement. Le numérique n'est intervenu à aucun moment dans son tournage. Tout est tourné en pellicule, il y a un traitement des images et photochimiques, et il y a ce grain de pellicule, le voile devant l'image, qui ajouté à la fumée, donne encore une impression de...
Oui, il y a le flou, il y a la fumée, il y a le grain, si bien que le peu qu'on voit, on le voit pas, on le devine. Et
accepter ce personnage et,
voilà,
et son expression terne. Alors, on pourrait revenir aussi sur l'histoire, cette Antigone rejouée à Auschwitz, hein, d'une certaine façon. C'est bien ça. Finalement, peu de gens se sont posé la question, est-ce qu'Auschwitz est un lieu ou rejouer Antigone? Est-ce que... Toujours la même question de la fiction des camps, est-ce qu'elle est possible? Question qui... On se souvient des débats vraiment très très houleux qui avaient eu lieu lors de la sortie de la liste de Schindler, de La vie est belle de Benigni, et débats qui finalement n'ont pas tellement eu lieu autour de ce film, parce qu'il a tout de suite été adulé à Cannes
comme étant un
chef-d'œuvre.
Oui.
Il y a quand même quelques voix discordantes, c'est intéressant de se demander finalement... Le rapport à la Shoah qui est introduit par ce film.
Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'elle est complètement invraisemblable. À mes yeux, en tout cas, c'est une fiction qui ne prend pas le parti du réalisme, du vraisemblable. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on atteint une dimension de mythe. Parce qu'il est évident que dans cette machinerie hyper bien huilée qu'est Auschwitz, la possibilité comme ça d'arracher un corps à la destruction qui lui est promise, ça tient pas debout 5 secondes. Mais c'est ça justement qui rend tout ça sublime et qui permet aussi de dépasser ce débat finalement un peu vain. Peut-on faire de la fiction autour de la Shoah? Je pense que ça arrive à ancrer le film dans une dimension supérieure à ces vieilles querelles finalement.
Et ce que je pense, et là où vraiment un échec a été évité, et où là où c'est cinématographiquement peut-être une avancée majeure, c'est que, alors, la question de faire de la fiction avec la Shoah, c'est vrai que c'est un débat un petit peu creux, mais par contre, la question de faire du spectacle avec de la Shoah a vraiment très très bien été évitée. Parce que voilà, le réalisateur le dit, il a cherché à fuir tout esthétisme, tout exercice de style, toute virtuosité, et le film n'est pas virtuose en soi.
Tu disais tout à l'heure que c'est un grand film, Et je sais pas si finalement j'en arriverai à ce jugement-là. Parce que j'ai l'impression que dans la sobriété justement recherchée, il finit par manquer une dimension supérieure. Alors je sais pas si c'est une dimension esthétique, philosophique ou simplement émotionnelle, pathétique. Mais j'ai l'impression quand même qu'il manque quelque chose pour faire de ce film saisissant, vraiment, qui vous secoue, un grand film. Je sais pas si c'est votre impression aussi. Tu dirais que c'est un grand film, toi, Hugo ?
Sûrement qu'il fera date, peut-être. Peut-être plus qu'un...
Oui, ça, qu'il fera date, certainement.
Parce qu'on a quand même une nouveauté dans la façon de filmer ça et de se placer par rapport à la Shoah et à tous ces événements. Et même, en fait, dans le sens d'enlever presque toute émotion, sans tomber dans le documentaire et sans...
Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du documentaire et du refus du documentaire. Et c'est vrai que ça marche très bien.
Ce que tu disais par rapport à ce qui est totalement fictionnel et sûrement invraisemblable. Mais c'est ce qui fait qu'on a quelque chose qui est totalement nouveau, en un sens.
Oui, parce que voilà, ça trace une troisième voie entre le pathos à la Spielberg et puis le documentaire à la Lanzmann. Voilà. Là, on a vraiment un parti pris nouveau, majeur, original, qui fera date certainement, mais après, j'arrive pas à en faire un grand film pour autant.
Et alors on pourrait peut-être finir avec juste la dernière image, sans forcément dévoiler tout le déroulement de la dernière scène, qui est quand même assez longue et qui crée une vraie rupture avec le reste du film. Mais sur l'importance, et justement dans le rapport au futur de cette dernière scène, c'est-à-dire ce petit garçon blond qui s'enfuit dans la forêt après avoir vu. Toujours la question du regard, est-ce que c'est pas le regard du spectateur qui s'enfuit d'une certaine façon ? Est-ce que c'est ce...
qui s'enfuit mais qui a vu et qui pourra pas
et qui ne pourra pas
oublier vu, quoi. Ouais. Oui, je crois qu'il y a de ça. Et puis il a vu et il a fait voir aussi le pauvre. Bon, là je vais pas en dire plus. Et oui, je pense que clairement il y a un signe vers le spectateur, vers nous qui allons
sortir de la projection. Derrière,
voilà, c'est ça aussi. Le premier plan et le dernier plan,
sachant
ça marche très bien.
Au final, une fois que le petit garçon s'est enfui, il n'y a plus que la pluie qui est vouée à tomber sur tout ça aussi. Il y a ce bruit de pluie à la fin.
Et effacer les traces aussi, c'est ça que fait la pluie.
Mais il y a toujours le petit garçon qui reste là, qui a vu. Bien qu'on essaye d'effacer les traces, on a toujours quelque chose qui reste.
Ouais, donc finalement, l'humanité pour témoigner, on en reste là d'une certaine manière.
Le Fils de Saul est encore en salle toute la semaine à La Fourmi dans le 3e, n'hésitez pas à vous y rendre sans tarder. Deux numéros de D'étoiles plein les yeux paraissent cette semaine. Vous retrouverez donc notre traditionnel retour sur les films du moment dans l'épisode précédent, qui porte sur Mon Roi de Mayouen. Je profite donc de ce numéro pour donner un aperçu de quelques sorties récentes en documentaire. Le Chilien Patricio Guzman prolonge sa réflexion politique sur la nature et l'humanité avec Le Bouton de Nacre, centré autour de l'eau, cette richesse infinie vénérée par les Indiens de Patagonie depuis des millénaires et que tous semblent avoir oublié aujourd'hui. Eau qui contient en même temps toute la mémoire d'un pays, mémoire des génocides, des guerres, de la dictature. Un film aux ambitions démesurées, certes, mais qui prétend à une grande humilité dans ce que certains ont vu comme une grande psychanalyse d'un pays, d'une région, d'un peuple. The Other Side, qui avait déjà été évoqué ici, suit quelques-uns de ces hommes et femmes vivant comme ils le peuvent à la marge de la société et du territoire américain. Mark vit de petits boulots quand il n'est pas en prison, Lisa est caissière dans une boîte de striptease. Ils sont toxicomanes et tentent de survivre comme ils le peuvent dans une petite ville du sud du pays, oubliée de tous, ravagée par la drogue et le chômage. Roberto Minervini dresse un portrait délicat mais éprouvant de cette petite communauté abandonnée. Enfin, retour au Chili avec Allende, mon grand-père, qui sortira mercredi 9 décembre. La petite fille du président chilien, assassinée dans un coup d'état militaire, part à la recherche de son illustre aïeul et tente de briser le silence qui entoure sa mémoire. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Hugo et à Jérémy. Merci également à Léo, à la technique. Et rendez-vous dans notre prochain numéro consacré à Night of Cups de Terrence Malick.